L'incendie de l'île des Pins bientôt maîtrisé du côté de Koumac. Le feu reste en partie en évolution libre. La Chambre territoriale des comptes publie son rapport sur les finances publiques locales pour l'année 2024, une année où, sans surprise, elle se dégrade significativement. L'abattoir de Bourail va connaître d'importants travaux. La première pierre a été posée ce mardi. La DECAL se transforme juridiquement et devient le GIP Technopole de Nouvelle-Calédonie. Ce matin avait lieu sa première assemblée générale. Et puis à l'approche de la saison estivale, nous avons consacré notre magazine citoyen à la mi-journée, à la sécurité du lagon. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Et pour débuter justement, nous allons faire un point de situation concernant les feux de forêt qui touchent l'île des Pins depuis plus d'une semaine et Koumac depuis hier, Lionel Sabot.
Oui, direction l'île des Pins pour commencer, où la situation s'améliore d'heure en heure. Sur l'île, c'est lundi dernier, le 1er décembre, qu'un incendie s'est déclaré. Depuis, ce sont plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers, de nombreux moyens matériels, notamment aériens, qui sont intervenus pour lutter pied à pied avec les flammes. Plus d'une semaine d'efforts des soldats du feu, appuyé par la population de l'île des Pins et qui porte ses fruits. Écoutez le capitaine Laurent Thomas, officier de permanence à la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques.
Le feu est fixé et on devrait passer maître du feu avant la nuit, ce qui signifie qu'en fait il ne peut plus évoluer dans le périmètre qu'il a dessiné. On est un petit peu divergent sur les superficies puisqu'on attend la troisième production de cartes du réseau de satellites Copernicus, donc qui nous sera envoyée par Paris en début de nuit pour nous. Mais autrement, le travail de terrain d'aujourd'hui a permis de traiter trois chantiers, donc le chantier du cimetière, le chantier du dépotoir et le dernier chantier du château d'eau, où on avait des points chauds qui pouvaient être virulents. Donc là, on a des équipes qui continuent à sillonner la périphérie du feu et qui traitent vraiment toute apparition de fumerolles qui pourrait faire redémarrer le feu. Évolution très favorable.
Les sapeurs-pompiers qui sont également mobilisés depuis hier sur plusieurs feux sur la commune de Koumac. Le plan Orsec, feu de forêt de niveau 2, a été déclenché il y a maintenant un peu plus de 24 heures. Au total, grâce à deux vagues de renfort, ce sont 9 véhicules, un hélicoptère bombardier d'eau et 19 sapeurs-pompiers de la sécurité civile, mais aussi du SIVM Sud et de la commune de Bourail qui sont mobilisés. On retrouve le capitaine Thomas.
Le secteur RSMA, il y a à peu près 7 hectares de surface brûlée. Il a été entièrement sécurisé par les moyens et le service incendie du RSMA. Donc actuellement, le feu il est fixé, il ne représente plus aucun danger. Ensuite, on a le chantier qu'on appelle du lieu-dit la crinière. Donc là, on a à peu près une centaine d'hectares qui ont brûlé et nos équipes sont en train de sécuriser les lisières qui sont encore les plus actives. 100 hectares, ça représente un petit peu de superficie. On a encore tout notre dispositif sur ce secteur. L'objectif, c'est vraiment d'aller au plus près des points chauds. Et à l'heure où je vous parle, on a des engins de chantier, des bulles, qui ont créé une sorte de rocade d'accès pour que des petits pick-up avec des kits incendie de 600 litres puissent aller au plus près et sécuriser les points chauds. Les forces vives du dispositif d'aujourd'hui ont été concentrées sur ce chantier. Et le dernier chantier qui concerne le lieu-dit Chagrin, c'est un feu en fait qui est en phase ascendante en direction de la mine, qui ne présente aucun danger pour les personnes. Donc il est en évolution libre. Actuellement, il y a 15 hectares de surface brûlée et c'est une priorité que l'on traitera demain.
Et ce qui fait de la particularité de ces feux sur la commune de Koumac, c'est que 3 départs de feu ont été constatés lundi entre 3h du matin et 14h. Des départs de feu qui, pour le maire de Koumac, n'ont rien de naturel. Écoutez Wilfried Weiss.
Je pense que c'est des feux d'origine criminelle et c'est là où c'est grave. C'est-à-dire que ces gens-là qui mettent le feu, ils ne se rendent pas compte quand ils craquent une allumette ou quand ils allument avec un briquet une touffe d'herbe ou de paille. On sait quand le feu commence, mais on ne sait pas quand le feu s'arrête. Et hier, on aurait pu avoir des drames. Donc c'est vraiment de l'irresponsabilité, c'est inadmissible. J'appelle les gens à la vigilance et puis surtout, dès qu'ils voient quelque chose, un départ de feu, un truc comme ça, qu'ils n'hésitent pas à appeler les pompiers ou la mairie ou le garde champêtre pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Un petit mot pour terminer, c'est de remercier tous les gens qui nous ont aidés hier, notamment les sociétés minières avec les porteurs d'eau, les bénévoles qui sont venus nous aider, etc. Parce que la situation était critique.
Des propos recueillis par Kalinda Boakou. Nous reparlerons de ces incendies, de ces feux de brousse à l'île des Pins et à Koumac demain matin à 7h30. C'est le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, qui sera notre invité du matin. Au-delà de la situation sur le terrain, nous évoquerons également avec lui les différentes consignes à la population pour éviter de nouveaux incendies.
Des incendies sur le territoire, d'autres également dans la région. Nos voisins australiens sont victimes d'importants d'importants feux, notamment dans le New South Wales. 20 habitations ont été détruites, plusieurs milliers d'hectares brûlés. Un pompier a également trouvé la mort. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Un pompier volontaire de 59 ans a été tué par la chute d'un arbre alors qu'il combattait l'incendie qui a déjà détruit 4 maisons et 4700 hectares de végétation à Bulandela, 250 km au nord de Sydney. Plus à l'ouest, 12 000 hectares de forêts et pâturages sont déjà partis en fumée dans la région de Merriwa, tandis qu'à Coolywong, 90 km au nord de Sydney, le feu qui avait calciné près de 150 hectares de végétation continue d'être circonscrit en vue de ne plus poser aucun danger. Son bilan est toutefois très lourd. 18 maisons détruites et une vingtaine d'autres gravement endommagées. Selon la police, des bidons d'essence trouvés à proximité laissent à penser que l'incendie est probablement d'origine criminelle. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
De retour sur le territoire avec au chapitre des faits divers, toujours la mairie de Koné qui appelle au respect et à la bienveillance. On apprend dans un communiqué publié aujourd'hui que mercredi dernier, une assistante sociale de la commune a été victime d'une agression. Dans ce communiqué, le maire de la commune de Koné donc déplore et dénonce cet acte et apporte son soutien à l'assistante sociale. Les élus du Congrès ont rendu ce matin un avis favorable à l'unanimité concernant le projet d'ordonnance portant partie législative du Code des douanes. L'objectif est de doter les douanes de moyens renforcés pour faire face aux nouvelles menaces de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Il a notamment été annoncé que la stratégie 2026 des douanes en Nouvelle-Calédonie se concentrerait sur les mouvements des bateaux et plaisanciers pour lutter contre ce trafic de stupéfiants. Et les élus du Congrès qui ont émis hier un avis favorable au projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival. 19 voix pour, 14 contre et 19 abstentions. Un vote très mitigé, Elisabeth Noir, qui traduit une absence de consensus et qui incite les élus calédoniens à se tourner vers Paris.
C'est Paris qui aura le dernier mot puisque ce projet de loi doit être examiné le 17 décembre en Conseil des ministres avant d'être soumis au Parlement en janvier. Mais il n'existe pas de majorité au niveau national pour soutenir ce texte, notamment depuis que le Parti socialiste a demandé au gouvernement de suspendre la consultation anticipée des Calédoniens. Il n'y a pas non plus de réelle majorité au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, où plusieurs groupes signataires de Bougival ont pris leur distance avec l'accord signé le 12 juillet et traînent les pieds pour une consultation anticipée. À l'issue de 3 heures de débat hier, seuls les 19 élus loyalistes et rassemblements ont exprimé un avis favorable. Les 14 élus UCF-LNCS qui rejettent Bougival ont émis un avis défavorable. Et les élus Unis Calédonie Ensemble et Éveil Océanien qui soutiennent toujours Bougival mais souhaitent son amélioration ou sa modification se sont abstenus. Cet avis va maintenant être transmis au Parlement accompagné d'une opinion de chacun des groupes qui auront ainsi l'occasion d'expliciter leur position sur l'organisation de cette consultation anticipée. Mais au-delà, les groupes politiques calédoniens envisagent maintenant une démarche commune pour demander que les parlementaires reprennent l'initiative dans le dossier. C'est ce qu'explique Virginie Rufnak, le chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était notre invité du matin à 7h30.
Nous n'avons pas de majorité à ce stade pour cette loi de consultation des Calédoniens. Alors les choses peuvent évoluer, hein, je l'espère, mais nous n'avons pas de majorité. C'est bien la raison pour laquelle nous sollicitons les autres groupes du Congrès pour tenter de parler en commun d'une voix, demander à ce qu'il y ait une initiative parlementaire du côté du Sénat, là où le texte de loi constitutionnelle Bougival est posé aujourd'hui, pour qu'il y ait une reprise de discussion avec les parties prenantes pour voir comment nous pouvons stabiliser la voie d'un accord. En tous les cas, que toutes les démarches soient faites, et c'est l'ultime chance, que cette mission travaille en étroite collaboration avec le gouvernement national, sans lequel rien n'est possible. Il faut qu'il travaille vraiment en concertation et que nous ne lâchions pas la voie de l'accord. Je vous le redis, nous n'accepterons pas une élection provinciale sur la base d'un corps gelé, excluant des milliers d'électeurs calédoniens, parce que ça serait donner un signal de grande défiance à notre territoire. Et finalement, ça montrerait qu'un seul des 6 groupes politiques opposés à cela empêche un élément de démocratie fondamental pour l'avenir.
Virginie Rufnak évoque le Sénat, mais depuis, il a envisagé une démarche commune des groupes politiques pour demander la constitution d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat qui reprenne l'initiative et permette peut-être une reprise des discussions pour rechercher un accord consensuel on parle aussi désormais de solliciter directement le Premier ministre ou le Président de la République pour qu'il tente de débloquer la situation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et on démarre avec la réponse à notre question d'hier. 79% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le plan de relance de l'État, à hauteur, je le rappelle, de 264 milliards de francs sur 5 ans, est de nature à relancer la confiance. Ils sont 21% à être d'un avis contraire. Notre question du jour à présent, Juliette Collet a fait un superbe parcours en étant élue première dauphine de Miss France. Pensez-vous qu'elle aurait mérité d'être élue Miss France? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. À 17h56, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Léo Fichou.
La Chambre territoriale des comptes publie son rapport sur les finances publiques locales pour l'année 2024, année où, sans surprise, elle se dégrade significativement, Jean-François Baudin.
Oui, d'abord sous le coup de la crise nickel et ensuite en raison des émeutes débutées en mai 2024, deux crises qui ont impacté l'économie négativement, note la CTC, puisque les recettes fiscales ont diminué de 14,2% et les cotisations sociales de 8,6%. Un document évidemment très technique et qui confirme toutefois que l'exécution budgétaire de la Nouvelle-Calédonie est des provinces a été significativement modifié au cours d'exercice. À titre d'exemple, la CTC note que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a dû verser des subventions de soutien à divers organismes qui ont conduit à une augmentation de 126% des dépenses réelles de fonctionnement initialement inscrites à son budget propre. 2024 aura donc été marqué par une dégradation de la situation financière du secteur public local. Malgré le soutien de l'État, souligne la Chambre territoriale des comptes.
L'IOM, de son côté, publie son rapport sur les tarifs bancaires pour les particuliers dans les territoires du Pacifique en octobre 2025. Selon l'Institut des missions d'outre-mer, 7 tarifs moyens sur les 14 étudiés sont inférieurs ou égaux aux moyennes hexagonales. Parmi les tarifs supérieurs, on retrouve la Nouvelle-Calédonie où le tarif moyen de la cotisation à une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement progresse de 275 francs, soit une évolution de 9,42%. De manière générale, cette cotisation moyenne reste néanmoins inférieure à celle observée en métropole. Dans l'actualité de ce mardi, également la pose de la première pierre du chantier de rénovation et d'extension de l'abattoir de l'OSEF à Bourail. Des travaux, Lionel Sabot, après 40 ans de bons et loyaux services de cette installation située dans le secteur de Nandaï.
Oui, un projet co-construit par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l'État. L'État qui finance ces travaux via le fonds d'investissement à hauteur de 3 millions d'euros, un peu plus de 360 millions de francs. Un engagement de l'État aux côtés de la Nouvelle-Calédonie qui est un signal positif à de nombreux égards, explique Catherine Merckx, commissaire déléguée à la province sud.
C'est un signal positif aujourd'hui, signal positif pour Bourail, pour tous les salariés de l'OSEF, d'avancer, d'avoir un nouveau projet, d'avoir des structures performantes. Ce sera de meilleure qualité de travail pour tous les agents de l'OSEF qui travaillent ici. Donc c'est des signaux positifs, forts, qu'on essaye de multiplier au maximum pour repartir vers un avenir positif.
Le chantier qui a débuté il y a déjà quelques jours est un chantier très important à l'échelle du territoire. Il va permettre évidemment de remplir les carnets de commandes des entreprises qui vont construire et rénover les installations. Il va aussi permettre aux employés de l'OSEF de disposer de nouveaux équipements qui répondront encore mieux aux évolutions de la réglementation. Lionel Brinon est le président du conseil d'administration de l'OSEF.
On l'a vu pendant la période Covid et pendant la période des exactions que l'OSEF était un outil qui permettait d'atteindre un objectif de sécurité alimentaire pour les Calédoniens. Nous avons du stock en chambre froide et il était important de pouvoir rénover ces bâtiments qui ont quand même 40 ans. On investit également dans un tunnel de surgélation pour pouvoir faire des découpes et pallier à une partie des ateliers de découpe privés qui ont été détruits pendant les exactions de l'an dernier.
Après 40 ans de fonctionnement, les installations de l'abattoir de Bourail vont être agrandies mais aussi rénovées. Un chantier qui n'est finalement que la première phase, entre guillemets, d'une opération de modernisation plus vaste. Frédéric Espinoza est le directeur général de l'OSEF.
Un projet de plateforme de compostage est destiné à produire un compost local qui sera utilisé notamment pour la reforestation des paysages. Mmh. Ce projet-là, je l'espérais depuis, je me bats depuis 2014, depuis ma nomination en tant que directeur, pour qu'il voit le jour. Et effectivement, c'est un aboutissement. Maintenant, ce n'est que le début d'un chemin. Et c'est, ce qui est important, c'est de maintenir l'élevage et le développer en Calédonie, de satisfaire les consommateurs, et pour que, effectivement, sur ce plan-là, on ait une autonomie, une sécurité alimentaire la plus large possible.
Et j'ajoute que ce matin, avant la pose de la première pierre de ce chantier, l'OSEF a réuni son conseil d'administration. Le budget 2026 de l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique a été voté à l'unanimité. Budget d'environ 7 milliards de francs.
L'ADECAL, Agence de développement de la Nouvelle-Calédonie, fait peau neuve et devient le GIP Technopole de Nouvelle-Calédonie. Ce matin avait lieu sa première assemblée générale, une AG présidée par Samuel Népéoun, membre du gouvernement chargé de la recherche et dont président du conseil d'administration de la Technopole. Un changement de statut pour mieux répondre à l'évolution des missions et des orientations stratégiques, nous a-t-il dit.
Le développement de l'activité de la Technopole l'a contraint à évoluer en termes de statut juridique et c'est comme ça que du statut associatif, il a été suggéré en fonction de l'évolution des activités et des recommandations de la Chambre territoriale des comptes, de passer en GIP. Et donc aujourd'hui, c'était juste de transformer l'essai en actant le passage de la Technopole du statut associatif à un statut de GIP. Dans le fond, les obligations et les missions de la Technopole, c'est de faire le lien entre la recherche scientifique et le monde économique à travers les expérimentations, le transfert des technologies et l'accompagnement des acteurs pour permettre cette fameuse passerelle entre la recherche et le monde économique et industriel.
La Technopole, anciennement ADECAL, a été créée en 1995 et comme le disait Samuel Népéoun, elle fait le lien entre la recherche scientifique et le monde économique. Une Technopole qui a deux missions principales. Sylvia Cornu-Merki est la directrice générale de la structure.
Alors, les missions principales, c'est de permettre la diversification de l'économie bleue et verte en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est important. Et la deuxième mission qui me semble importante, c'est de mieux travailler avec les acteurs, à la fois les acteurs de l'économie et à la fois de la recherche. Donc ça, c'est les deux missions qu'il faut qu'on se donne, mais de manière vraiment très prioritaire dans les années à venir. Et c'est ce qui va changer, je pense. Et idéalement, il faudrait que la recherche puisse répondre à un certain nombre de nos questions aussi, parce que c'est important que les questions viennent en fait du terrain, que nous, on puisse faire le lien alors, avec la recherche en disant, voilà, il y a telle et telle question. Par exemple, j'ai en son la patate douce, on pourrait travailler très bien avec l'organisme de recherche qui est l'IAC pour trouver en fait un piège lumineux et permettre de lutter contre la patate douce. Donc voilà, c'est vraiment là et on a vraiment le lien en fait recherche, développement expérimental puisque nous on fait de l'expérimentation et derrière les acteurs parce qu'ils en ont besoin pour avoir des patates douces qui soient de bonne qualité.
Le GIP Technopole de Nouvelle-Calédonie qui remplace donc juridiquement l'ancienne ADECAL continuera ses missions autour de deux thèmes, les écosystèmes marins et les écosystèmes terrestres. 18h03, seconde pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de notre journal.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu ? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
Nous avons parlé des bonnes pratiques en mer ce midi dans le magazine Citoyen. Alors qu'à cette période, de plus en plus de plaisanciers fréquentent le lagon, les services de secours en mer du COSENSE sont particulièrement vigilants. En cas de besoin, ils déclenchent des opérations de sauvetage auprès notamment de la SNSM. Marc Sabatier, le président de la SNSM, nous a rappelé les bons réflexes avant de prendre la mer.
Sans cueillir la météo, je dis, c'est jamais plaisant d'aller quand il y a 25 nœuds de vent avec une plate. Donc vraiment, regarder la météo, vérifier son équipement de sécurité, la validité des fusées, la validité éventuellement si vous avez un extincteur à bord, parce que c'est important, c'est un des moyens pour se signaler dans le cas d'une avarie. Prévenir le COS quand vous partez. Soit vous avez une VHF sur le canal 16, soit vous les appelez avec votre téléphone portable sur le numéro, le 16 aussi à l'identique. Ce qui vous permet de leur dire où vous partez, à combien vous êtes, quel est votre bateau, et leur dire une heure approximative de retour à la maison. Et comme ça, si vous avez dépassé l'heure et que vous n'avez plus de batterie ou plus de VHF ou quoi que ce soit, ils peuvent déclencher les recherches.
Et lors de vos sorties en mer, pensez aussi à l'environnement. Tiffen Reed est chef des gardes nature de la province sud. Les 14 gardes nature arpentent le lagon pour faire notamment de la prévention auprès des usagers. Elle rappelle, elle aussi, à consulter la météo et notamment la carte prévifeu pour ne pas risquer de déclencher d'incendies sur les îlots notamment. Elle appelle aussi à être respectueux de la faune locale.
On va toujours faire des rappels en fait, sur la réglementation au niveau des aires protégées, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des zones extraordinaires, marcher au milieu des nids d'oiseaux. En fait, ce n'est pas anodin. On va impacter des espèces d'oiseaux. On a une grosse responsabilité. Et c'est vrai que les oiseaux, les gens ont moins cette sensibilité que pour les tortues ou les dugongs. S'il y avait une autre priorité, en fait, ça fait 3 ans maintenant en fait, que les dugongs ils sont en danger d'extinction critique sur la population de Nouvelle-Calédonie. Il nous resterait moins de 400 individus. Donc il y a de grandes chances en fait, que nos enfants et nos petits-enfants, ils n'en voient pas. Si on ne change pas nos comportements, on peut savoir que quand on passe au-dessus d'une zone d'un herbier qui est l'habitat principal en fait, de ces animaux, d'arriver à 20 nœuds, l'animal il va pas avoir le temps de nous entendre ou de changer de direction. Une collision avec un dugong qui amène à la mortalité juste parce qu'on est allé un peu trop vite et qu'on n'a pas fait attention, c'est absolument détrimental pour la population. Chaque dugong compte, il faut vraiment qu'on fasse attention.
Et que vous ayez un problème en mer ou que vous souhaitiez signaler un animal d'une espèce protégée en danger, composez le 16 par téléphone ou utilisez ce canal sur la VHF pour joindre le COSENSE. Une émission Citoyen à retrouver en podcast sur notre site internet www.rrb.nc.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Notre opération au cœur de Noël continue et vous êtes encore nombreux à venir chaque jour à la radio. Tous les cadeaux que vous apportez pour les enfants seront bien évidemment distribués par nos associations partenaires aux familles en difficulté. Et pour cela, merci à tous. Merci également à Sylvain qui est venu cet après-midi écouter.
J'ai amené un puzzle manga pour adolescents en 1000 pièces. Ça passera quelques heures en dehors de la tablette ou de l'écran. Je pense que c'est un petit peu un devoir de solidarité. Chacun fait selon ses petits moyens. Il y a plein de gamins qui, avec tout ce qui s'est passé en Calédonie, vont être un peu privés de Noël. Donc chacun amène sa pierre et ça le fera.
Et je rappelle que vous pouvez passer tous les jours de 7h à 19h à Radio Rythme Bleu, 4 rue de Sébastopol. Vous pouvez aussi déposer vos cadeaux à Petit Dôme, route de Lansvata. 18h08, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, en première partie de nuit, des averses parfois modérées concerneront encore le nord-est et la pointe nord. En fin de nuit, quelques averses isolées pourront toucher l'extrême sud, tandis que le reste du territoire profitera d'une nuit calme, peu ou pas nuageuse. Le vent de sud-est faiblira progressivement entre 10 et 15 nœuds et les températures minimales remonteront, allant de 17 à 23 degrés et jusqu'à 24-25 degrés sur Belep et Ouvéa. Demain matin, l'Alizé apportera quelques nuages sur la pointe sud et marée ou quelques gouttes pourront se produire. Sur Belep, des averses seront encore possibles sous un ciel assez chargé. Partout ailleurs, le soleil s'imposera largement. Le vent restera de sud-est, généralement 10 à 15 nœuds, et pourra grimper jusqu'à 15 à 20 nœuds sur la côte ouest. Côté marée, elle atteindra sa pleine mer cette nuit vers 23h. Elle redescendra pour une basse mer demain matin autour de 5h15, avant de remonter progressivement pour une nouvelle pleine mer demain à la mi-journée.
parti. Merci beaucoup Pierre pour la météo et la technique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h pour le rappel des titres. Je rappelle également qu'à 18h30, ce sera le rendez-vous, l'interview d'Europe 1. Et ce soir, Sonia Mabrouk reçoit Charles de Coulson, député Lyotte de la Marne et ancien rapporteur du budget.